4 chemin 1989.
Comme il n'y a plus beaucoup de cours avant la fin de l'année scolaire, je vais vous lire quand même ce que Aristote dit dans le De Anima à propos de l'odeur et de l'odorat et du goût et de la saveur. Je vais aller assez vite. On en a traité la dernière fois assez longuement. C'est pour que vous en ayez le goût et que vous alliez vous-même lire ces textes. Et puis le petit fascicule. Il y a un petit fascicule d'Aristote entièrement sur le sensible et les sensations. Alors, comme toujours, c'est très difficile, mais c'est très important d'essayer de prendre ce qui reste philosophique et ce qui demande d'être précisé par la science d'aujourd'hui. C'est un des lieux, c'est pour ça que je m'attarde un peu, parce que c'est un des lieux très importants. Les sensibles propres et les sensibles communs. Pas commode à bien préciser. Quant à l'odeur et au corps odorant, il est moins aisé d'en traiter que des sujets précédents. Donc, il y a tout de suite ce point de vue-là. Dès qu'on est en face de ce que représente ce domaine des sensations d'odeur, Aristote reconnaît tout de suite que tout est beaucoup moins précis. En effet, la nature de l'odeur n'apparaît pas aussi clairement que celle du son, de la lumière ou de la couleur. La raison en est que chez nous, ce sens n'est pas aigu. Déjà du temps d'Aristote. Et je crois qu'on a diminué beaucoup depuis. Notre civilisation est une civilisation qui est une civilisation de l'œil. Télévision. Ou de l'ouïe. C'est très curieux. Il y a toute une série de sens qui tendent à disparaître. Ou du moins dont l'exercice est beaucoup moins dans l'espace, parce que l'exercice est beaucoup moins fort. Alors ça, c'est très intéressant pour détecter le niveau d'une culture, au point de vue humain, et voir comment un certain réalisme se perd. Donc la raison en est que chez nous, ce sens n'est pas aigu, mais inférieur même à ce qu'il est chez beaucoup d'animaux. L'homme sent mal les odeurs et ne perçoit aucun objet odorant sans les sensations de douleur et de plaisir. Donc un sens très lié à l'affectivité. C'est peut-être le sens le plus lié à l'affectivité. On a instinctivement la réaction des odeurs agréables et des odeurs qui ne le sont pas. C'est pour ça qu'on se gendarme un peu. Ce qui prouve que son organe sensoriel manque d'acuité. C'est aussi probablement que les animaux, aux yeux durs, perçoivent les couleurs et ne distinguent leurs différences que par la frayeur qu'elles provoquent ou non. C'est de cette manière que les odeurs sont perçues par l'espèce humaine. Alors là, j'ai une analogie qui serait très intéressante. L'aigle, l'acuité de l'aigle, c'est connu. L'aigle a une acuité de regard extraordinaire. Mais en vue de la chasse, en vue de l'attaque. C'est pas du tout pour voir, pour contempler. Oui, fameuse parole d'Aristote, qu'il ne faut jamais oublier, qui est au début de la métaphysique, l'homme aime de voir. Ce qui montre qu'il y a une connaissance qui est recherchée pour elle-même. C'est très beau, du reste. Ça, c'est très grec. Ce que Hegel reconnaît, hein. Le grec, c'est la vision. Alors, il dit, d'une manière peut-être trop exclusive, le sémite, c'est lui. Il y a quelque chose de vrai. La culture grecque, elle est faite pour la vision. La culture sémite, elle est faite par la tradition. Parce que c'est l'aspect religieux et l'aspect de la foi. Et l'aspect religieux et l'aspect de la foi est beaucoup plus lié à Louis. Fides ex auditu. La foi, on ne dit pas du tout que la foi, c'est une question de vision, parce qu'on ne verrait rien. La foi est une question d'ouïe. Abraham entend Dieu. Les prophètes entendent Dieu. Il faut Jean, pour dans l'Apocalypse, entendant, il se retourne pour voir la voix. Mais il ne voit rien. Parce que vous ne voyez pas la voix. Mais c'est dit dans l'Écriture. C'est ça qui est très curieux. Pour montrer que la révélation ex auditu peut conduire à une soif de vision. C'est tout le parcours de la foi. Alors, il y a là une petite remarque très intéressante de montrer, alors c'est toujours ces analogies avec les animaux, c'est très difficile, qu'est-ce que l'aigle voit ? Je ne suis pas dedans. Hein. Qu'est-ce que l'aigle voit quand il est très haut et qu'il voit une petite souris qui court dans un champ de blé ? D'après son attraction, on peut dire qu'il la voit. Il se précipite là-dessus. Il l'emporte, évidemment. Un gros rat, parce qu'une souris, je ne crois pas. Un petit mulot, ça m'étonnerait que l'aigle se dérange pour un mulot. Peut-être quand il a très faim. Après tout. Un tout petit rien, un petit mulot. Hein. Mettez ça en beefsteak, vous verrez que c'est charmant. C'est vrai, les cuisses de grenouille, c'est déjà extraordinaire, mais les cuisses de mulot, c'est jamais... quelque chose de très particulier. Un gros rat, on comprend que ça puisse se faire. Alors, vous voyez, c'est assez curieux. C'est ainsi, probablement, que les animaux aux yeux durs, ouais, le regard de l'aigle est dur, aux yeux durs, perçoivent les couleurs et ne distinguent leurs différences que par la frayeur qu'elle provoque ou non. Donc l'affectivité. L'estimative qui joue là. L'estimative qui est pour le bien de l'animal. L'animal voit quelque chose qui peut être intéressant pour lui. Aujourd'hui on dit l'instinct. On n'explique pas plus. On ne connaît pas beaucoup mieux l'aigle, vous savez, qu'Aristote. Bon, on connaît beaucoup mieux l'analyse biologique, mais sa connaissance, son œil dur, on ne connaît pas beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on est toujours en admiration devant les aigles. Parce qu'on ne connaît pas. C'est en admiration. C'est beau. C'est grand. C'est noble. Et enfin, ça donne un peu de frayeur. C'est puissant. Alors, on fait l'analogie pour le regard de l'aigle par rapport à ce qu'il voit et l'odorat, en montrant que l'odorat reste lié à l'affectivité, donc à ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre comment l'odorat est lié profondément à notre connaissance première de la finalité. Connaissance de ce qui est bon pour nous. sensiblement, et de ce qui est mauvais pour nous, sensiblement. Vous voyez, c'est Aristote montre ça, cette affectivité qui est liée à l'odorat. C'est de cette manière que les odeurs sont perçues par l'espèce humaine. Par l'espèce humaine, c'est très joli. On voudrait justement que la pauvre espèce humaine, quand il s'agit d'odorat, on est devant un sens peu évolué. Et vous voyez, en Afrique, ce que je connais de l'Afrique, je crois que on est d'accord, l'odorat est beaucoup plus fort que dans les pays d'Europe. Alors Aristote dit, c'est les pays chauds. La chaleur transmet l'odeur, le froid. Allez dans le pôle Nord, verrez comme odeur. C'est glacial. C'est froid. La chaleur transmet les odeurs. C'est curieux ces choses-là. Il y a, vous voyez, et la chaleur, le feu, finalité. Donc, tout ça, évidemment, c'est une connaissance analogique, hein, qualitative. La science ne dit rien là-dessus. Elle peut étudier simplement l'organe de l'odorat. Et quand l'odorat apparaît, ça c'est très intéressant, génétiquement. Très intéressant de voir le moment, si on a le temps, on le fera, mais si on n'aura pas le temps, mais de voir génétiquement comment les sens apparaissent successivement dans l'embryon. Et ça c'est intéressant. Mais c'est une connaissance dans l'ordre génétique et par le point de vue de la matière, donc de la disposition. Ça ne vous dit pas ce qu'est l'odorat. L'odorat, vous ne le savez que par l'expérience. Et vous analysez l'odorat philosophiquement. Parce que la science ne va étudier que l'organe, donc la cause matérielle et les dispositions. Elle ne peut pas étudier de l'intérieur ce qu'est l'odorat. Vous pouvez étudier que de l'intérieur, comme toujours la vie. La vie ne se saisit que de l'intérieur. Et la vie est qualitative. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre la qualité particulière que le sens de l'odorat détecte. Il semble qu'il y ait une analogie. Ah, ça, c'est aussi très intéressant. Vous voyez, Oaike Mengar analogon et kein. Donc une analogie entre le goût et l'odorat, entre les espèces de saveur et les espèces d'odeur. Toutefois, notre sens du goût est plus aigu parce qu'il est une sorte de toucher et que ce dernier sens atteint chez l'homme un très haut degré d'acuité. L'homme, au point de vue du toucher, est le maître de tous les animaux. Et il n'est pas le maître de tous les animaux au point de vue de l'odorat. C'est ça qui frappe le philosophe. Pourquoi ? Comment ça se fait ? C'est vrai, la main. La main caractérise l'homme. Alors la main permet d'avoir un toucher bien plus distinct. Vous voyez l'ours, les ours de Berne. Parce que ce sont des familiers, n'est-ce pas, les ours de Berne. Alors on s'aperçoit que ce n'est pas très délicat au point de vue du toucher. Quand vous avez reçu une caresse d'un ours, vous le savez pour toute votre vie. Et vous vous apercevez que ce n'est pas très délicat, vous n'avez pas du tout envie de recommencer. La délicatesse de la caresse d'un ours, paf. C'est plutôt des gifles que des caresses. Et ça reste, hein. Il y a des traces. C'est curieux. C'est très curieux. Que la main est faite pour la tendresse. Et l'homme est fait pour la tendresse. Alors vous allez me dire, le toucher est très affectif. C'est évident que le toucher est très affectif. C'est l'œil qui est évidemment le plus lié à l'intelligence. Ça, c'est grec. mémoire visuelle est plus intellectuelle que la mémoire du toucher ou de l'odorat. Proust, la Madeleine, c'est le coup là. C'est très curieux. Oui, l'affectivité n'est pas la même, celle du toucher et l'affectivité de l'odorat. Mais c'est quand même deux sens qui restent très affectifs. Alors on voit, vous voyez, le toucher, le goût et l'odorat sont très affectifs. Et vous ne pouvez pas distinguer et séparer, selon ces trois sens, le point de vue de l'affectivité. Mais c'est trois affectivités différentes. Et ça serait très intéressant de les étudier. Ces trois affectivités différentes. Quant à notre manière de toucher le réel. Quant aux autres sens, en effet, l'homme est inférieur à beaucoup d'animaux. Mais pour le toucher, il les surpasse tous de loin en acuité, la main. Aussi est-il le plus intelligent des animaux. Grâce au toucher, carnes mollas, l'expression que saint Thomas reprend. On est intelligent en fonction carnes mollas, c'est le toucher. C'est à travers le toucher qu'on discernera l'acuité de l'intelligence. La preuve en est qu'on s'attend tenir de l'espèce humaine à l'espèce humaine, c'est l'organe de ce sens et aucun autre qui partage les individus en bien ou mal doués. Ceux qui ont la chair dure sont mal doués intellectuellement. Mais ceux qui ont la chair tendre sont bien doués. Partage des spéculatifs et des non-spéculatifs. L'appareil qui permet de toucher, de voir le toucher. C'est très curieux, c'est très intéressant ça. Saint Thomas a repris ça exactement. Alors, devons-nous le reprendre entièrement? Ce sont des tests qui sont un peu perdus. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas du tout ce genre de tests pour voir si les jeunes sont doués. Vous savez, quand on fait le partage de ceux qui sont faits pour les sciences et spéculations, ceux qui sont faits pour le point de vue pratique. J'ai vu ça avec mes petits psychologues que j'ai interrogés longuement là-dessus. Je leur ai dit, mais c'est terrible. Il n'y a aucun test pour l'affectivité. Aucun. Je comprends que c'est beaucoup plus difficile à interpréter. C'est quand même un peu terrible. J'avais lancé ces psychologues là-dessus, ça n'a pas abouti. Parce qu'ils avaient pigé, ils avaient compris qu'il y avait quelque chose là. C'est vrai. Tout est du côté de l'intelligence. Alors c'est du plus et du moins. Alors on ne voit pas le positif. On a une intelligence affective, on a une intelligence artistique, on a une intelligence utilitaire. Il faudrait des tests différents pour chacun. Et non pas des tests uniquement du côté intellectuel, on met le plus et le moins. Comme si les manuels étaient des imbéciles. Et c'est comme ça que ça se partage. Ah, vous n'êtes pas doué pour les études. Donc, allez du côté pratique. Ah, c'est agréable. Alors que non. On est intelligent de deux façons différentes. Mais le côté univoque de l'intelligence, on est intelligence différente. Il y a des artistes qui sont bien plus intelligents que des savants. Comme intelligence qualitative. Il y a des amoureux qui sont bien beaucoup plus intelligents que des savants. Autre type d'intelligence. Ah, parce que l'intelligence humaine est liée au sens, est lié à l'affectivité. Donc c'est là où on devrait déterminer. Vous voyez, ça c'est l'univocité du psychologique. Les psychologues sont univoques. Ils n'ont pas du tout une connaissance analogique. Parce qu'ils ne regardent plus la finalité. En ne regardant plus la finalité, ils ont une connaissance univoque. Et ils appliquent univoquement. C'est très très frappant quand vous regardez les différents tests. là, il y a tout un petit passage extrêmement intéressant d'Aristote. De même que la saveur est tantôt douce, tantôt amère, ainsi en est-il des odeurs. Vous voyez, alors toujours, quand il s'agit des odeurs, on ne parle qu'analogiquement. Parce que la connaissance de l'odeur est tellement difficile à saisir. Et pourtant, nous avons un sens propre pour ça. L'odorat doit être étudié pour lui-même. Et philosophiquement, on ne l'étudie qu'en fonction des autres sens. Mais c'est ce qu'il fait ici. De même que la saveur est tantôt douce et amère, ainsi en est-il des odeurs. Toutefois, certains corps ont une odeur et une saveur analogues. J'entends que s'ils ont une odeur douce, ils ont aussi une saveur douce. Pour d'autres corps, c'est le contraire. De même encore, une odeur peut être aigre, âcre, acide ou onctueuse. Mais nous l'avons dit, les odeurs n'étant pas, comme les saveurs, très faciles à distinguer, c'est de celles-ci qu'elles ont tiré leur nom d'après la ressemblance des objets. C'est ainsi que l'odeur douce, alors l'odeur douce, c'est la saveur douce. Et parce qu'il n'y a pas de nom propre, on prend le saveur. Oui, c'est très astucieux ça. D'après le langage, on voit très bien que l'odorat, c'est le moins intellectuel de tous, comme sensation. Et ça se répercute dans le langage. Parce que le langage passe toujours par l'intelligence. Notre langage n'est pas directement sensible. Parce que le langage est lié à la signification. Et la signification est liée à l'intelligence. Nos sens ne saisissent pas la signification. Nos sens, ils saisissent la sensation. Et la sensation n'est pas signification. Et donc, tout le langage relève de l'intelligence, de la sensation, de la signification. Et notre langage fait que, quand il s'agit d'odorat, c'est le sens pauvre. L'odorat, c'est le sens pauvre. Pourquoi ? Parce que c'est le sens de l'amour. La pauvreté va avec l'amour. C'est le sens de la finalité. C'est très cru. Donc, j'entends que s'ils ont une odeur douce, ils ont aussi une saveur douce. De même encore, une odeur peut être aigre, bon, mais nous l'avons dit, les odeurs n'étant pas, comme les saveurs, très faciles à distinguer, c'est de celles-ci qu'elles ont tiré leur nom d'après la ressemblance des objets. C'est ainsi que l'odeur douce est celle du safran et du miel. Les jours de fête. L'odeur, oui, c'est ça qui caractérise les fêtes, liturgiquement. Il y a du miel au petit déjeuner. Venez, alors vous dites, bon, c'est un jour doux. C'est extraordinaire. Parce que ça donne une perspective particulière. C'est ainsi que l'odeur douce est celle du safran et du miel. L'odeur aigre, celle du thym. Et d'autres corps de même genre. Il en est de même des autres odeurs. Mais il ne va pas très loin. Hein. C'est court. De plus, ayez un fichier là-dessus. Hein. C'est intéressant. Parce que, de plus, il en va ici comme de l'ouïe. On passe à un autre sens maintenant. Et de chacun des autres sens. L'ouïe a pour objet le sonore. Et l'insonore, la vue, le visible et l'invisible. À son tour, l'odorat a pour objet l'odorant et l'inodore. Vous avez senti l'inodore ? L'inodore est telle, soit par l'impossibilité absolue d'avoir aucune odeur, soit pour n'avoir qu'une odeur faible et négligeable. Même signification pour le terme insipide. Quand je faisais beaucoup d'autostop, une fois, c'est quelqu'un qui était très spécialiste dans la recherche des parfums, et des parfums d'une très grande maison de Paris. On avait tout un voyage ensemble. C'était extrêmement intéressant. Comment il découvrait de nouveaux parfums. Parce qu'il y a un art du parfum. Et c'est l'odeur. Intéressé parce que c'est pas si commode que ça. J'aurais dû avoir un magnétophone sur moi et prendre ce qu'il avait dit. Parce que c'est intéressant. Oui, c'est par l'art que vous mettez en valeur l'odorat. L'art des parfums. Marie Magdala. C'est la sainte des parfums. Et elle en fait l'offrande au Seigneur. Hein. C'est beau, tu vois, ça. C'est une signification. L'odorat, lui aussi, s'exerce à travers un milieu. Comme toujours. Ça, c'est la grande théorie d'Aristote. Hein. Tel que l'air ou l'eau. En effet, selon l'opinion reçue, les animaux aquatiques perçoivent l'odeur, qu'ils aient du sang ou non, tout comme ceux qui vivent dans l'air. De fait, certains d'entre eux se dirigent de loin vers leur nourriture quand l'odeur les attire. Dès lors, une difficulté manifeste se présente. À supposer que tous les animaux perçoivent les odeurs de la même manière. En fait, l'homme ne les sent qu'en aspirant l'air. Si, au lieu d'aspirer, il expire ou retient son souffle, il ne sent rien, ni de loin ni de près, quand bien même l'odeur serait introduite dans la narine jusqu'à la toucher. Que l'objet placé au contact de l'organe sensoriel est insensible. C'est le cas de tous les sens. Mais de ne pouvoir sentir sans aspirer, c'est le propre de l'homme. L'expérience le prouve. Il s'ensuivrait que les animaux dépourvus de sens, dépourvus de sang, puisqu'ils ne respirent pas, devraient avoir un sens différent de ce que l'on a dit. Mais c'est impossible. Puisque c'est l'odeur qu'ils sentent, le sens correspondant à l'objet qui émet les odeurs, soit mauvaise, soit bonne, c'est l'odorat. De surcroît, on constate que ces animaux périssent sous l'action des mêmes odeurs violentes qui sont mortelles pour l'homme. Celles du bitume, du soufre, et autres de même genre. Il y a des odeurs qui peuvent être d'une violence extrême et qu'on ne peut plus supporter. C'est donc bien de toute nécessité qu'ils sentent les odeurs, mais sans respirer. Alors voilà, ça c'est, on voit très bien la difficulté pour le philosophe. Il semble que chez l'homme, cet organe de l'odorat diffère de celui des autres animaux, comme le toucher. Les deux organes les plus affectifs. Ce seraient les deux organes les plus différenciés. Alors ça, c'est très intéressant à noter. Parce que c'est les deux organes où les sensations sont le plus liées à l'affectivité. Donc le plus lié à la finalité. Or, seul l'homme est capable de dominer son instinct pour une finalité supérieure. C'est pour ça que seul l'homme connaît sa finalité. Les animaux sont soumis à l'instinct. Il semble que chez l'homme, cet organe de l'odorat diffère de celui des autres animaux, comme ses yeux diffèrent des yeux des animaux aux yeux durs. Car les yeux de l'homme ont pour tégument et en quelque sorte pour enveloppe les paupières. Si on ne les remue ni ne les écarte, on ne voit pas. Au contraire, les animaux aux yeux durs n'ont rien de semblable et voient d'emblée ce qui se passe dans le diaphragme. C'est donc ainsi, semble-t-il, que chez certains animaux, l'organe de l'odorat, comme l'œil, est à découvert. Mais chez ceux qui reçoivent l'air en eux-mêmes, cet organe comporte une membrane qui s'écarte dans la respiration grâce à la dilatation des veines et des pores. Voilà pourquoi les animaux doués de respiration ne sentent pas les odeurs en milieu humide. Ils ne peuvent sentir qu'en respirant, ce qui, en milieu humide, est impossible. L'odeur appartient au sec comme la saveur à l'humide. Et l'organe de l'odorat est tel en puissance. C'est pour ça que la chaleur transmet mieux l'odeur. Parce que c'est lié à la transmission de l'odorat, de la respiration. Et c'est très curieux ces choses-là. La manière dont Aristote inspecte ça, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez. C'est tout à fait autre chose que notre manière d'approcher par le point de vue scientifique. C'est l'aspect qualitatif, où il essaie d'induire l'organe, il essaie d'induire à partir de l'organe la faculté, la puissance qui sent l'odorant. Parce que vous ne le voyez pas, l'odorant. Et le savant ne peut pas le mesurer. C'est relié à l'âme. Puissance capable de sentir, qui se sert d'un organe. Ça, l'organe, on peut le mesurer. Mais lui veut saisir l'organe dans sa fonction même d'organe, ce que ne fait plus le savant. Et dans sa fonction même d'organe, il est en acte. Autrement, il est en puissance. Et donc, on le saisit à partir du fait même de la sensation d'odorat. Vous ne saisissez l'organe et vous ne saisissez la faculté qu'à partir de cette sensation particulière. Je sens. Et effectivement, quand vous dites « je sens », vous respirez. Quand on dit « oh, ça sent fort, ça sent la violette hein », vous savez bien, des gens qui, quand ils vont dans tel ou tel lieu, disent « Oh là, on sent la violette !» Alors, à partir de la sensation, on analyse un organe particulier qui détecte, sentir la violette, vous voyez. Vous n'avez pas de mots. Alors vous le ramenez, ce que dit Aristote, vous le ramenez à l'objet. Vous sentez la violette. Mais qu'est-ce que c'est que l'odeur de la violette? Oh, c'est l'odeur de la violette. Vous faites des analogies avec la saveur. Faites l'analogie avec les autres sens. Ce que font les poètes, instinctivement. Les poètes font des analogies extraordinaires. Et non seulement ils font des analogies, mais ils transposent les mots. Alors, ça évoque. Vous évoquez comme ça l'odeur de la violette en décrivant la violette. Le goût, il ne dit pas grand-chose. Hein. Et l'odorat reste lié à telle fleur que nous sentons. L'odeur de la rose, de la violette. fige les odeurs bonnes, agréables, mauvaises. Un lieu où l'odeur est fétide, ça sent le cadavre. À la suite des pères de l'Église, qui dit que le lieu où Jésus a été crucifié était un lieu impossible à respirer. Parce qu'on laissait les cadavres pourrir. C'est ça que ça veut dire, le lieu des condamnés, des esclaves. On n'avait pas le droit à la sépulture. Entièrement mangé. Dieu fétide. Impossible à vivre. Et pour ça, d'abord, ça fait partie du mystère de la passion. La sanctification. Jésus l'a assumé, comme toi, c'est Marie aussi. Le sapide est une sorte de tangible. Alors, si nous passons aux couilles, et la saveur. C'est pour cette raison qu'il n'est pas senti à travers un milieu corporel étranger. De même dans le cas du toucher. Le toucher a ceci de particulier, c'est que on touche tout de suite. Et la saveur a ceci de particulier, c'est qu'on porte en soi le milieu dans lequel on va saisir. Soit un intermédiaire. C'est très curieux. Et ça, c'est très significatif, ça. C'est les deux sens les plus réalistes. C'est vrai, le toucher et le goût. C'est les deux sens les plus réalistes. Les autres sens idéalisent facilement à cause du milieu. Alors, si vous écoutez les psychanalystes et les psychologues, c'est les deux sens où l'hallucination est le plus difficile. Les hallucinations sont beaucoup plus faciles du côté de l'odorat et du côté de la vision, au dire des psychanalystes. Tandis que quand vous commencez à avoir des hallucinations du toucher, oh, c'est grave. Et des hallucinations du goût aussi. Avec de l'odorat. Vous savez, le petit déjeuner pris intentionnellement. Le petit matin, quand vous êtes auprès d'une boulangerie qui, à partir de 4h du matin, s'ouvre, et que tout le monde dort dans le petit village, il faut faire cette expérience. Bon, maintenant, mais vous avez peut-être fait avant. Non, tout le monde dort dans le village. Vous n'avez rien mangé le soir. Parce qu'il faut ça. C'est être à jeun. Rien manger le soir. Quand vous êtes à jeun, l'odorat joue un rôle bien plus grand. Oh là là. Quand vous êtes repu. Vous voyez, c'est pour ça qu'un monde, la civilisation dans laquelle on est, civilisation de consommation, on n'a jamais faim. Alors l'odorat diminue. Si vous aviez faim, l'odorat augmenterait. On le sait du reste, c'est ce qu'on fait pour les chiens de chasse. Il ne faut pas leur donner un morceau énorme avant qu'ils vont chasser, non. Ils vont être affamés. Odorat puissant. C'est ça qu'il faut dire. Parce que si vous avez cette expérience du petit déjeuner, vous n'avez rien pris le matin. Vous avez dormi au clair de lune, vous êtes levé très tôt, vous entrez dans cette petite ville, puis vous sentez l'odeur du boulanger qui s'est levé très tôt. Vous sentez. Alors vous prenez un petit déjeuner intentionnel par l'odorat. C'est un petit déjeuner admirable, meilleur que tous les. petit déjeuner. Évidemment, ça ne nourrit pas beaucoup, mais ça satisfait prodigieusement. Parce que l'odorat est extraordinaire. Il est pris par ce point de vue de l'odorat. Vous sentez ça. Et ça vous reste comme le petit déjeuner, le meilleur de toute votre vie. Même le chocolat. Ou le café. Parce que si le café a son odeur, le thé aussi. Alors, voyez, de plus, le corps qui contient la saveur, le sapide, est dans l'humide comme dans sa matière. C'est très important, l'humide. Petit matin, on a besoin de prendre de l'humide pour éveiller la saveur. Un petit déjeuner sec, très bien, rassis. Pain rassis, qui n'a plus aucune odeur. Petit pain frais, il est encore chaud. Alors il a une saveur particulière. C'est lié à l'humide. Par suite. Or, l'humide est une sorte de tangible. Par suite, même si nous étions dans l'eau, nous sentirions le tout qui viendrait à s'y introduire. Notre sensation ne se reproduirait pas à travers le milieu, mais en raison du mélange de la saveur à l'humide, comme dans le cas de la boisson. La couleur, par contre, ce n'est pas ainsi. Savoir par mélange qu'elle est vue, ni non plus par des effluves. Ainsi donc, rien dans les saveurs qui jouent le rôle de milieu. Mais de même que le visible, c'est la couleur, le sapide, c'est la saveur. Cependant, rien ne produit une sensation de saveur sans humidité. Mais un corps possède cette humidité, soit en acte, soit en puissance. Par exemple, un corps salé, aisément soluble lui-même, il exerce une action fondante sur la langue. On voit le vieil Aristote. Donc, là, c'est les conditions sine qua non. Ce n'est pas ce qui spécifie. Mais pour qu'il y ait saveur, il faut ça. La vue est le sens du visible et de l'invisible. L'obscurité est invisible. Mais c'est encore la vue qui en juge. On juge des ténèbres. On juge des contraires. Et en outre, de ce qui est éblouissant, cela encore est invisible, mais autrement que l'obscurité. Vous ne pouvez pas regarder le soleil, c'est trop éclatant. S'il faut le regarder, c'est dangereux. C'est ainsi que l'ouïe est le sens du son et du silence. L'un est audible, l'autre non. Et du son interne, comme la vue est sens de l'éblouissant. De même que le son faible est inaudible. D'une certaine manière, le son intense et violent l'est aussi. Et on appelle invisible soit ce qu'il est absolument, comme on parle d'impossible en d'autres cas. Alors c'est toute la question de l'équilibre. Quand le sensible est trop fort, il blesse le sens, il l'abîme. Et on ne peut plus vraiment sentir. Ça, c'est une question très importante. C'est très vrai. Vous voyez, l'organe limite le champ du visible ou de l'invisible. Le champ de l'audible ou de l'inaudible. C'est l'organe qui limite. Et quand l'objet visible est trop intense, il limite. Alors on va le voir ça pour le sapide. On verra ça la prochaine.